Bienvenue à cette émission de la série « La véritable école, c'est la vie », enseignement de la sagesse divine. Au cours de cette série d'émissions, nous entendons des extraits d'enseignements que Gabrielle, la prophétesse et messagère de Dieu, a donnés pendant près de 50 ans sur tous les domaines de la vie. Le thème d'aujourd'hui s'intitule « Apprends à vivre avec la nature et les animaux ». Tu apprends ainsi à mieux te comprendre et à mieux comprendre ton prochain. Ce titre nous laisse entrevoir que cet enseignement ne parle pas du fait d'être superficiellement pour la nature et les animaux ou de se contenter de la joie qu'ils nous procurent, mais que nous pouvons ainsi apprendre beaucoup de choses en nous observant nous-mêmes, ce qui est un gain pour nous-mêmes et pour notre relation à notre prochain ainsi qu'à la création de Dieu. Alors, si vous le souhaitez, participez à cet enseignement avec nous. Écoutons pour commencer des extraits de cet enseignement de Gabrielle. Je cite. Pour apprendre à mieux nous comprendre, demandons-nous tout d'abord ce que signifie pour nous la responsabilité. Pour beaucoup de gens, le mot responsabilité n'est qu'un terme, quelque chose d'abstrait qui ne les concerne qu'en théorie. C'est pourquoi ça ne les dérange pas beaucoup lorsqu'ils entendent qu'ils sont responsables devant la loi de Dieu de toutes leurs pensées et paroles et de tous leurs actes. Si nous prenons conscience que tous nos sentiments, sensations et pensées, que chaque mot, en fait tout notre comportement, sont des énergies et qu'aucune énergie ne se perd, il en déroule logiquement que toute action est suivie d'une réaction. Et il ne s'agit pas là d'une règle abstraite, d'une vérité approuvée par notre intellect qui ne s'appliquerait que de manière globale à notre monde dans son ensemble. La chaîne d'action et de réaction est en premier lieu la réalité de notre propre vie personnelle sur Terre. Chacun est continuellement en action, c'est-à-dire émet des sentiments, des sensations, des pensées, parle, agit. Selon le contenu de ses actions, de sa manière d'agir, il provoque telle ou telle chose dont il est et reste responsable. Tout ce qui émane de l'être humain, toute action, revient à lui en tant que réaction, est enregistré sous forme d'énergie dans son âme et sa structure cellulaire, ainsi que dans le cosmos. C'est pourquoi chacun de nous porte la responsabilité de ce qu'il fait, mais également de ce qu'il ne fait pas, c'est-à-dire de sa non-mise en pratique des lois divines qu'il a reconnues et acceptées.
Gabrielle poursuit en disant « Combien de fois disons-nous « je veux » et pourtant ne le faisons pas ? Par exemple, je veux vivre en harmonie avec mon prochain ainsi qu'avec la nature et les animaux. Cependant, beaucoup ne veulent pas faire le travail sur soi qui est nécessaire à cela, c'est-à-dire mettre en pratique les lois de Dieu qui sont notre vie véritable. Lorsque nous disons « je veux », cela signifie que nous avons reconnu que l'intention que nous exprimons est ce que nous devrions faire. Mais il ne faut pas nous arrêter là. Un proverbe dit « L'enfer est pavé de bonnes intentions ». Ce qu'on entend par là, ce sont ces bonnes prises de conscience qui précèdent les mots « je veux »,« je vais », »,« il faut que », mais qui ne sont pas suivies des changements que nous devrions faire en conséquence dans notre vie. Ainsi, le verbe « vouloir » tout comme le mot « responsabilité » sont devenus des concepts élastiques que chacun interprète à la manière qui lui convient le mieux. Les explications qui suivent sur le thème « Apprends à vivre avec la nature et les animaux » s'adressent à ceux qui ne se contentent pas de prendre des résolutions, de prendre conscience de ce qu'ils auraient à faire, mais qui ont décidé de donner vraiment un nouveau cours à leur vie. Si nous voulons vivre de manière juste, avec nos prochains et avec la nature, nous devons en premier lieu prendre conscience que la vie est communication divine. Tout ce que nous voyons et tout ce qui est invisible à nos yeux est vie. L'infini tout entier, toutes les forces pures et toutes les formes pures sont emplies de la vie qu'est Dieu. Par contre, la terre et tout ce qui vit en elle, sur elle et au-dessus d'elle, ainsi que le reste de l'univers matériel, ne sont qu'un reflet de l'infini, un reflet de l'existence pure. L'image originelle, c'est l'existence pure, c'est elle qui est la vie, à la différence du reflet de l'image du miroir qui, lui, contient la vie.
Gabrielle donne encore d'autres explications. Elle dit « Les règnes de la nature, les êtres humains et toutes les âmes qui vivent dans les plans de purification, ainsi que tous les astres matériels et ceux de substances plus fines mais pas pures, ne sont donc que des reflets de l'existence pure. La densité, la matière et les astres de matière plus fine sur lesquels vivent des âmes sont uniquement traversés du rayonnement et portés par la vie, Dieu. Cela a lieu par l'intermédiaire du noyau central incorruptible et donc indestructible de notre âme, qui est entouré de la forme de vie dense qu'est le corps humain. La communication avec Dieu, l'unique source de vie, se fait grâce au noyau central de l'âme, le noyau de vie de l'âme. Par conséquent, dans tout l'infini, tout ce qui est pur, c'est-à-dire également le noyau central de l'âme de tout être humain, est en communication. Le domaine dense, qui comprend différents degrés de densification, compte le cosmos matériel, les plans de purification et les âmes, tous les êtres humains, les règnes de la nature, toutes les espèces végétales et animales, ainsi que tous les minéraux sous forme liquide et solide. La vie, c'est l'unité, également appelée communication universelle. C'est l'esprit universel qui unit tout ce qui est pur par la communication universelle. Les règnes de la nature ne connaissent pas la séparation d'avec l'esprit universel. Ils sont reliés et se sentent reliés avec le grand un universel qui les unit et avec lequel ils font un. La vie, la communication universelle, ne connaît pas non plus la mort. Prenons conscience que toutes les formes de vie matérielle de la nature, par exemple les arbres, les buissons, les fleurs, ne connaissent pas la mort. La mort de la forme extérieure n'est pour la nature rien d'autre que le fait de se défaire d'une forme temporelle pour être à nouveau dans la forme de conscience originelle et véritable. Il en va de même pour les animaux. Ils ne connaissent pas la mort. Lorsqu'ils quittent leur forme temporelle, que j'appellerai ici leur habit terrestre, ils redeviennent ce qu'ils sont dans leur conscience, un certain niveau de conscience, de développement, qui a pris forme. Les pierres non plus, tous les minéraux, solides et liquides, ne connaissent pas la mort. Quelle que soit la manière dont l'homme maltraite leur forme extérieure et la modifie, il reste un niveau de conscience dans l'esprit universel.
Écoutons ce que Gabrielle ajoute à ce propos. Cependant, la nature et les animaux ont peur de l'homme, car celui-ci les contraint de bien des manières à une mort qui n'est pas naturelle et qui est souvent atroce. Beaucoup de gens tuent sans réfléchir à la vie et sans se demander qui a donné la vie à la nature et aux animaux. La mise à mort délibérée des végétaux et des animaux est une atteinte au courant harmonieux, à la communication universelle, la vie. Les atteintes à la communication de la vie sont enregistrées dans la chronique atmosphérique où est enregistré, sous forme d'image, tout ce qui se passe sur la Terre, que ce soit par exemple l'abattage d'arbres en pleine sève, ou le piétinement et la destruction délibérée de végétaux de toutes espèces, voire la manipulation de groupes de végétaux, ou encore la mise à mort de centaines de milliers d'animaux, le fait de les tuer, mais aussi de les écraser délibérément, de les maltraiter et de les priver d'une vie digne de leur espèce, et de bien d'autres choses encore. Les innombrables atteintes à la vie des règnes de la nature remontent au début de la densification, c'est-à-dire aux événements de la chute. Ces actes contraires à la loi de Dieu ont été repris par de plus en plus d'êtres humains, mais également par de nombreuses espèces animales qui, par l'intermédiaire de la chronique atmosphérique, furent ainsi et sont encore stimulées par les êtres humains à tuer. Les programmes de comportement contraires à la loi de Dieu que l'homme a créée ont ainsi été transmis aux animaux. L'homme en est la cause, c'est lui qui en porte la responsabilité. Il a ainsi chargé son âme et la charge encore, pas l'animal. Si, pour cette raison, les animaux chassent et dévorent souvent les plus faibles de leurs frères et sœurs du règne animal, c'est uniquement en raison de l'influence de l'homme qu'ils subissent depuis de nombreux millénaires. Cette dégénérescence est donc le fait de l'homme et ne correspond ni à la vie universelle ni à la mort naturelle telle qu'elle est prévue dans les lois terrestres de la nature. En dépit de tout ce qu'ils ont subi et subissent encore, nos frères et sœurs, les animaux, ont un comportement beaucoup plus respectueux des animaux, éthiquement supérieur à celui de l'homme que l'on peut qualifier de tueur et de tortionnaire. Par exemple, pour son profit, il maltraite les bovins mâles et femelles avec une cruauté sans nom. Après l'y avoir forcé par des moyens artificiels, il extorque à l'animal sa force vitale afin de pratiquer des inséminations artificielles. Les exploitations agricoles qui élèvent des animaux inséminés artificiellement pour en faire des animaux engraissés destinés à la production de viande ne sont rien d'autre que des lieux de production de vie artificielle à laquelle l'éleveur met fin lorsqu'il le décide afin que l'être humain puisse manger des cadavres animaux.
Prenons conscience, poursuit Gabriel, que les animaux créés par l'homme par insémination artificielle afin de finir à l'abattoir sont eux aussi des êtres vivants. Cependant, ce n'est pas Dieu, l'Éternel, l'Esprit universel qui donne la vie aux animaux créés par l'homme et sa volonté propre. C'est l'homme qui leur a donné et leur donne une partie de sa propre force vitale. L'homme est intervenu dans la loi de la nature et à voler la substance porteuse de vie afin de produire, par exemple, des animaux destinés à être tués délibérément. L'homme s'érige ainsi en créateur. Mais comme l'homme n'est pas le créateur de l'infini, l'existence de chaque animal engendré artificiellement est branchée sur la batterie de vie de tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, sont liés à ce processus, y compris les personnes qui consomment sa chair, la chair de leurs frères et sœurs du monde animal, autrement dit, le consommateur. Ceux qui approuvent, accomplissent ou soutiennent de tels actes inhumains commis contre les animaux sont insensibles et sans aucun scrupule. Ils portent haut le drapeau du principe de l'ego qui dit « Je suis moi-même mon prochain ». Un jour, ils seront enchaînés au mât de leur propre drapeau. Que se passera-t-il alors? En raison de ces innombrables comportements contraires à la loi divine de l'unité, des comportements qui comprennent aussi toutes les énergies provenant de ses sentiments, sensations, pensées et paroles, l'être humain a créé son propre circuit individuel. Il tourne exclusivement autour de lui-même, selon le principe « Que tout soit à mon service. » le circuit de l'ego n'est pas intégré dans le circuit universel de la vie. Ceux qui vivent dans cette conscience étroite de l'ego se sont séparés de la communication universelle. Ils ont nourri et nourrissent uniquement leur ego, dont la communication est limitée. Le circuit personnel, le circuit de l'ego, ne se rapporte qu'au corps, à la chair. Il part des enregistrements faits dans le conscient et le subconscient, donc du cerveau, passe par les cellules et les fonctions corporelles qui sont chargées des mêmes enregistrements négatifs pour retourner ensuite au conscient et au subconscient. L'être humain est entre autres dirigé par les enregistrements qu'il a faits dans les planètes d'enregistrement correspondantes. Dans ce circuit, toute pensée concernant l'existence d'une âme immortelle et d'une communication avec la vie universelle s'est perdue. En conséquence, les préoccupations de l'être humain ne tournent pratiquement plus qu'autour de lui-même. Son bien-être personnel et l'approbation qu'il attend des autres sont pour lui au premier plan. C'est ce qu'il appelle alors la vie.
Gabriel explique ensuite comment se crée ce circuit personnel. En quelques mots, chaque être humain a une âme immortelle dans laquelle se trouve le noyau central incorruptible qui est divin. Le noyau central est en communication universelle avec Dieu, la vie, c'est-à-dire avec l'infini, avec toutes les forces et formes pures, avec la vie dans les règnes matériels de la nature, et donc aussi avec le noyau central dans tous les êtres humains. Autour de ce noyau central incorruptible, se sont formées des enveloppes qui sont la conséquence de comportements contraires à la loi de Dieu. L'enveloppe extérieure, très densifiée, donc matérielle, c'est la chair, l'être humain. Ces enveloppes sont nées à partir de la tête de l'être humain, des données dirigées contre la vie qu'il a enregistrées dans son cerveau. Dans un premier temps, il remplit et remplit son conscient et son subconscient. Puis, ce qu'il y a enregistré est progressivement transmis à l'ensemble de son corps. Les enregistrements entrent dans sa structure cellulaire et imprègnent toutes les fonctions du corps. La structure de l'âme, faite de particules spirituelles, absorbe elle aussi ces données. Il en résulte les enveloppes énergétiques qui constituent le rayonnement direct de l'être humain. Et son comportement correspond également à ce rayonnement. Comme cela a déjà été mentionné auparavant, l'être humain enregistre également ses données personnelles dans les astres correspondants du cosmos matériel ainsi que dans ceux du cosmos immatériel, les plans de purification. Ces aspects humains sont de nature personnelle. Ils n'ont pas accès à la communication universelle, qui est impersonnelle, c'est-à-dire qui correspond à la loi de Dieu. En conséquence, celui qui est centré sur l'ego mène, certains plus, d'autres moins, une existence isolée qui l'a mené à ne plus avoir de communication avec son prochain, avec la nature et les animaux. Nous pouvons comparer le circuit personnel à une toile d'araignée. L'araignée attrape une mouche dans sa toile. L'être humain, par contre, a en quelque sorte tissé lui-même une toile d'araignée dans laquelle il s'est pris lui-même. Les sentiments et la conscience morale de telles personnes sont devenus insensibles. Il est possible qu'elles n'aient plus de contact qu'avec des personnes partageant les mêmes idées. Elles rejettent tout le reste, tout ce qui ne correspond pas à leur cercle étroit et égocentrique de sentiments et de pensées. Les personnes qui ont perdu tout sens véritable de la vie et toute conscience morale pensent et agissent comme des robots. Par leur comportement, elles écrasent souvent tout ce qui ne leur apporte rien. Elles n'ont aucun égard pour la vie de leurs semblables, et encore moins pour celle de la nature, des animaux et de la terre-mère. Leur principe, le principe de l'ego, est « Je suis moi-même mon prochain, que tout soit au service de mon bien-être ». Elles ne se préoccupent pas de savoir si la nature et les animaux en souffrent. Elles voient tout comme des objets, éventuellement sans vie, et considèrent que toute chose doit être à leur service, même la vie des animaux et de la nature.
Gabriel répète : Ceux qui nourrissent sans scrupule leur circuit personnel se sont séparés de la communication universelle. La fonction du noyau central de l'âme est réduite à les maintenir en vie. Ils sont devenus si pauvres en sentiments que leur comportement en devient monstrueux. Ils détruisent et tuent pour satisfaire leurs propres objectifs. La terre-mère et sa grande diversité d'espaces végétales, animales et minérales est à la merci de ce type de personnes. Avec une clarté sans précédent, la génération actuelle donne la preuve que se contenter de parler de protection de la biodiversité et du monde animal ne sert à rien. Même si de nombreux soi-disant amoureux de la nature parlent de la beauté de la nature et du monde animal, de la splendeur des couleurs qu'on y trouve et des magnifiques couleurs et motifs des plumes ou du pelage des animaux, cela ne sert à rien. Les mots prononcés sont de peu d'utilité s'ils ne sont pas emplis du souci d'apporter aide et soin à nos prochains, nos frères et sœurs des règnes de la nature, les arbres, les arbustes, les herbes, les fleurs et les animaux. Lorsque nous parlons des règnes de la nature, nous ne devrions pas non plus oublier les minéraux ainsi que les éléments, la terre, l'eau, le vent, le feu, ainsi que le soleil et les autres astres. Tout fait partie de l'unité, de l'amour et de la sagesse de Dieu, qui est aussi l'esprit de la nature et des éléments. Sincèrement, combien de fois ne nous sommes-nous pas promenés dans la forêt, les prairies ou sur un joli chemin de campagne serpenté, et avons pensé ou dit à peu près « Ah, comme la forêt est belle, comme la nature est belle, ce calme me fait tant de bien. Le chant, les gazouillis et la joie des oiseaux sont un bienfait pour l'âme. » Ou bien nous nous émerveillons devant les majestueux arbres qui, depuis tant d'années, bravent le vent, la tempête, le froid et la chaleur, et qui, malgré ces conditions, poursuivent leur croissance et apportent les fruits de leur espèce. Ou bien nous voyons un chevreuil qui bondit avec agilité au-dessus d'une touffe d'herbe ou d'un arbuste. Ou bien nous voyons un lièvre, un renard, un sanglier ou encore un petit écureuil agile dont le pelage brille merveilleusement au soleil, l'élément du feu. Nous pensons et exprimons à quel point tout cela est beau et agréable. Mais qu'emportons-nous avec nous dans la forêt, dans les prairies et sur les chemins de campagne? En fin de compte, nos soucis et nos problèmes, notre rayonnement grisâtre, que nous camouflons avec de belles paroles du style « comme tout cela est beau et agréable ». Au terme de notre promenade, nous pensons ou exprimons à quel point notre promenade était agréable et relaxante. Nous l'évoquons peut-être encore une fois le lendemain matin lorsque nous parlons de ce que nous avons fait le dimanche. Mais nous l'oublions rapidement, car nous tournons à nouveau autour de nos propres préoccupations, celles que nous avions également emportées avec nous en promenade. Notre moi, notre ego grisâtre, voire bien souvent très sombre.
Nous voyons ici que Gabrielle connaît bien les modèles de pensée et les comportements de l'être humain. Elle ajoute « Peut-être voyons-nous à la télévision ou lisons-nous dans les journaux comment des animaux qui sont en fait eux aussi des êtres faits pour la liberté, sont enfermés dans des centres d'élevage pour la production de viande, et nous voyons ce qui leur est donné comme nourriture, la manière dont ils sont traités dans les transports les menant à l'abattoir, et comment ils y sont tués, dépecés, ou même comment ils sont maltraités et torturés dans les laboratoires de vivisection, jusqu'à ce que la mort les délivre. Nous disons alors peut-être, c'est vraiment horrible. Nous voyons, entendons et lisons beaucoup de choses. Comment nous comportons-nous? D'un côté, nous pensons et disons, comme la nature est belle, elle nous a tant donné. Et de l'autre, en voyant la souffrance des animaux montrée à la télévision ou dans des articles de presse, nous pensons et disons, c'est horrible. La plupart du temps, nous en restons à des commentaires de ce genre. Mais qui réfléchit en se demandant s'il n'a pas lui aussi un comportement semblable qu'il pourrait alors changer? Il se peut que nous donnions de bons conseils aux autres sur la manière dont ils devraient agir. Et nous? Comment nous comportons-nous? Sommes-nous intérieurement en communication avec le petit oiseau qui, au printemps, construit son nid pour ses petits, qui exprime sa joie et sa gratitude au Créateur en chantant et en jubilant? Percevons-nous au plus profond de notre âme, depuis le noyau central incorruptible de l'âme, le langage du Créateur qui s'exprime par le monde des oiseaux? Percevons-nous le langage du Créateur qui s'exprime à travers les arbres majestueux, les arbustes et les fleurs? Percevons-nous au plus profond de notre âme ce que nous transmettent le renard, le chevreuil, le lièvre, le sanglier ou l'agile écureuil? Percevons-nous l'esprit universel, la vie dans la pierre? Percevons-nous le langage du vent, du feu, de l'eau et de la terre-mère? Comprenons-nous ce qu'un rayon de soleil veut nous dire? Percevons-nous les plaintes des animaux privés de leur liberté, réduits en esclavage et enfermés dans les transports d'animaux et dans les laboratoires de vivisection? Ressentons-nous la détresse des animaux dans les élevages, que j'appelle des lieux de production pour les abattoirs, des animaux conçus artificiellement et tués pour le profit de l'homme? Percevons-nous et ressentons-nous les cris et les peurs des animaux dans les abattoirs, massacrés pour assouvir les envies de l'homme, son appétit de cadavres d'animaux? Un jour, d'innombrables âmes ou hommes devront répondre aux questions suivantes devant le juge qu'est la loi des semailles et des récoltes. Qui vous a attribué le droit de créer artificiellement la vie et de tuer délibérément des êtres vivants? Qui vous a donné le droit de bafouer la vie au service de votre propre bien-être?
Chers amis, ce que Gabriel a mentionné ici brièvement et les multiples autres cruautés commises par l'être humain contre les animaux pourraient se résumer en une phrase. L'homme monstre n'a plus aucun sentiment ni aucune conscience. Lorsqu'il s'agit de détruire les êtres vivants et les formes de vie de la nature, il devient de plus en plus brutal et inventif. Et il ne remarque même pas qu'en agissant ainsi, il se détruit lui-même. Gabriel ajoute : puisque les choses sont telles qu'elles sont, on peut dire à juste titre et de manière générale que la pensée et le comportement de l'être humain ne sont faits que de lui-même. Le noyau central incorruptible, Dieu, au plus profond de l'âme humaine, est enveloppé de nombreux actes commis contre la vie. Celui qui a encore des sentiments et une conscience changera de cap. Il ne se contentera plus de s'extasier sur sa promenade dans la nature ou de s'horrifier de ce qu'il voit, entend ou lit à propos de la souffrance de ses frères et sœurs, les animaux. Ou lorsque ses frères, les arbres, sont abattus en pleine sève, ou que des forêts entières sont anéanties par le feu. Comment pouvons-nous retrouver la communication universelle? Comment pouvons-nous faire l'expérience de l'esprit universel, de la vie qui nous parle à travers les innombrables degrés de conscience de la nature que sont les plantes, les animaux et les règnes minéraux? Que faut-il faire pour entrer à nouveau dans la communication universelle, dans la vie, pour protéger et préserver la vie et faire un avec elle? Nous pouvons apprendre et nous exercer à trouver notre véritable soi, la communication universelle, la vie et le langage émanant de sa conscience. Nous devrions perdre l'habitude d'utiliser « je veux » ou « nous devrions » comme excuse ou prétexte qui ne sont pas suivis d'actes correspondants. Devant la loi des semailles et des récoltes, il n'y a aucune excuse dès lors que nous savons comment nous devrions nous comporter en tant que fils et filles de Dieu. Les dérives de notre génération montrent que Dieu ne s'adapte pas à nous. C'est à nous de changer pour nous rapprocher de lui. C'est à nous de faire le premier pas vers la communication universelle. Alors, l'Éternel vient à notre rencontre.
Et comment parvenons-nous à la communication universelle? Gabriel enseigne ce qui suit. Le premier pas vers la communication universelle consiste à mettre à profit chaque journée, qui est une facette de notre vie sur Terre, afin de nous libérer progressivement du fardeau, des charges que nous avons infligées à notre âme et à notre corps. Cela se fait en examinant de plus près nos pensées pessimistes, dépréciatives, c'est-à-dire négatives, nos propos indisciplinés et non qualifiés, ne servant qu'à nous mettre en valeur, et en nous interrogeant sur les causes de ces comportements. Cela se fait aussi en nous demandant si nos pensées sont à ce que nous faisons, à notre travail, ou bien totalement ailleurs, et où. En nous demandant ce qui s'agite dans notre monde de sentiments, et bien plus encore. Nous devons apprendre à prendre en main notre vie sur Terre, qui se manifeste jour après jour, à travers nos sentiments, nos pensées, nos paroles et nos actes, mais aussi à travers nos monologues intérieurs, les altercations que nous avons en pensée avec notre prochain et qui ne sont rien d'autre qu'une lutte de notre ego contre les autres. Chaque jour, nous découvrons ainsi certains aspects de ce que nous avons enregistré, des aspects de nous-mêmes. En analysant tout ce qui nous préoccupe et qui prend généralement la forme de monologues intérieurs et d'accusations contre les autres, nous découvrons une partie de nos enregistrements qui révèle notre moi humain. La deuxième étape est de mettre en ordre, avec la force de l'Esprit de Dieu en nous, ce que nous avons reconnu, ce qui nous charge. La troisième étape, qui est essentielle, consiste maintenant à cesser de penser et d'agir de la même manière, autrement dit, à nous maîtriser nous-mêmes. La quatrième étape consiste à trouver un aspect de la loi divine à partir des aspects négatifs que nous avons mis en ordre. Les 10 commandements de Dieu et le sermon sur la montagne de Jésus de Nazareth nous y aident. Rappelons-nous régulièrement ces aspects de la loi divine que nous voulons mettre en pratique, en en faisant une petite note que nous placerons, par exemple, à un endroit où nous sommes régulièrement. Ce n'est que lorsque ces aspects de la loi de la vie ont été assimilés par nos cellules cérébrales que nous les accomplissons tout naturellement, parce qu'ils ont gagné de l'espace dans la conscience de chaque cellule, imprégnant ainsi notre corps et pénétrant également dans notre âme. En d'autres termes, les ombres qui, auparavant, avaient conduit notre âme et notre corps à une mauvaise orientation et les avaient chargées, ont été transformées par l'Esprit de Dieu en lumière et en force. Cette lumière et cette force s'écoulent alors dans notre âme et dans notre corps. Cela signifie également que les enveloppes qui entourent le noyau central de l'âme s'éclaircissent et que la structure de notre corps, qui est vibration de nature matérielle, devient plus fine et notre être plus équilibré. L'étape suivante est l'intériorisation permettant de parvenir au calme. C'est sur cette base que se développe une vision et une compréhension claire des choses de la vie, ainsi qu'une perception profonde de ce que nous voyons autour de nous.
Prenons conscience, poursuit Gabriel, que pour retrouver la communication universelle, il nous faut vivre plus consciemment afin de pouvoir accumuler des énergies positives que nous utilisons alors pour la contemplation profonde de ce qui nous entoure, par exemple les végétaux, les animaux et les minéraux, dans le but de faire nous-mêmes l'expérience que tout vit et ressent, tel que nous vivons et ressentons aussi. La vie est donc communication universelle. Pour reprendre contact avec la communication universelle, nous devons faire les premiers pas, apprendre à nous connaître, remettre en question nos aspects de nature humaine, les mettre en ordre et ne plus refaire la même chose. Un autre exercice consisterait, par exemple, lorsque nous nous promenons dans la nature ou que nous sommes dans un jardin, à nous arrêter un instant et à fermer les yeux, dans le but de nous entraîner à laisser la vie s'éveiller en nous. Celui qui parvient à se libérer de plus en plus de son « moi » bas en mettant en ordre chaque jour ce qu'il reconnaît, devient plus calme et plus posé. Alors, il ne se contentera plus de se promener dans la nature en s'extasiant sur la beauté, mais il aura appris à la percevoir avec d'autres yeux et à faire l'expérience du Créateur qui parle à travers toutes les formes de vie, dans tous les domaines qui composent la vie. Il n'y a rien d'inhabituel au fait que l'Esprit de l'infini, le Créateur de l'éternité, se révèle dans toutes les formes de vie et dans toutes les forces de l'existence. Les règnes de la nature, les éléments, tout ce que nous voyons et ne voyons pas, sont révélations de l'un universel. Encore une fois, si nous ne percevons pas le langage émanant de la conscience des règnes de la nature, c'est uniquement parce que nous avons recouvert, c'est-à-dire voilé la communication universelle, la vie, en nous détournant d'elle et en fin de compte de notre soi véritable. Si nous recréons la communication avec les règnes de la nature, nous ressentons l'unité de la vie et en faisons l'expérience en nous. Cela signifie également que nous ne nous détournerons pas de notre prochain, car nous aurons fait l'expérience que chaque être humain porte en lui la communication universelle. Qu'il le voie ainsi ou non, tout être humain appartient à l'unité de l'infini par le biais du noyau central incorruptible qui est en nous et dans toutes les forces matérielles, c'est-à-dire également dans les règnes de la nature. Si nous rejetons quelqu'un par antipathie, en le dévalorisant, en vivant avec lui dans la discorde ou l'inimitié, voire en lui vouant de la haine, nous nous séparons de l'unité et nous nous lions aux ténèbres qui alors nous enveloppent.
Gabriel conclut son enseignement très riche par les mots suivants. Chacun de nous est responsable de sa vie. Chaque pas sur notre chemin de vie terrestre nous rapproche de l'unité avec la vie universelle, Dieu, ou nous éloigne davantage de Dieu, l'existence universelle, et nous ferme à la communication universelle. Prenons nos responsabilités. Chaque jour, chaque heure, chaque minute nous en donne l'occasion. Oui, chers amis, notre vie est entre nos mains. C'est à chacun de déterminer lui-même où son chemin le mène. Si nous choisissons la voie menant à la vie universelle, Dieu, menant à l'unité avec nos prochains, avec la nature et avec nos frères et sœurs les animaux, nous pouvons être sûrs que malgré les turbulences qui règnent encore en ce monde, même si cette époque est encore très sombre, le chemin qui mène à l'unité de toute vie est en même temps le chemin qui mène à la nouvelle ère, l'ère de l'esprit libre, Dieu en nous, sans religion, sans prêtre. C'est l'ère du lys, de l'amour pour Dieu et pour le prochain, appliqué à nos semblables, ainsi qu'à la nature et aux animaux. C'est alors avec la plus grande évidence que nous ne ferons plus de mal aux animaux, que nous ne les tuerons pas, mais qu'au contraire, nous aurons pour eux de l'amour et du respect, notamment parce que nous aurons pris conscience qu'ils sont des êtres sensibles, qu'ils sont nos petits frères et sœurs qui portent en eux la même vie, le même souffle divin que nous. Nous vous souhaitons et nous souhaitons à tous de faire de bonnes expériences. Nous vous disons à bientôt et vous adressons une chaleureuse salutation en Dieu.